Bonjour à vous tous.
C'est un voyage particulier que vous nous proposez dans ce guide. La Suisse est un pays riche de paysages absolument merveilleux, mais vous avez décidé d'aller voir ce qu'il y avait en dessous.
Oui, effectivement. Ben, on parle parfois de la Suisse en tant que gruyère. C'est pas très approprié, on devrait dire Emmental plutôt, si on fait allusion au trou. Et effectivement, j'ai découvert là un univers vraiment fascinant. Je suis pas spéléologue. Par chance, je ne suis pas trop claustrophobe. Mais il s'agissait de répondre au désir de mon éditeur. C'est pas moi qui ai eu l'idée de ce guide. J'en avais fait un auparavant sur les hôtels insolites en Suisse, un autre sur les moyens de transport dans notre pays. Et on a pensé un petit peu cet été à diverses actualités qui tournaient autour des grottes. Il y a eu la découverte au Vietnam d'un véritable univers souterrain qui est incroyable, avec sa propre jungle tropicale. Il y a eu la mésaventure de ces enfants que tout le monde a suivi, là, le suspense en Thaïlande. Et puis, la météo avec cet été un peu caniculaire a évidemment mis les grottes en évidence, comme une ligne où on pouvait trouver un petit peu de fraîcheur. Tout ça, finalement, m'a donné une certaine légitimité pour m'intéresser à ce sujet. Et j'avais une petite chose en plus, c'est que j'ai effectué une partie de mes devoirs militaires dans un bunker suisse. Pour tout vous dire maintenant, il n'y a plus de secret. Le secret défense a été levé du côté de Brienz, où il existait des studios de radio et de télévision souterrains. Et c'est cette partie-là qui m'a le plus intéressé à exprimer un petit peu dans ce guide, puisque maintenant le public peut les visiter. Et c'est carrément James Bondesque.
Justement, ce qui vous intéressait dans ce guide, Bernard Pichon, c'est de dévoiler aussi des grottes, des mines, des souterrains qui sont accessibles à tous, au plus grand nombre. On peut quasiment toujours y aller en famille.
Oui, alors c'était ça le but, bien entendu. Les spéléologues spécialistes vont me dire, mais on ne parle pas de tel ou tel site. J'ai écarté tous ceux qui n'étaient pas d'accès facile. Il s'agit donc de donner des suggestions de promenades et d'exploration à des familles qui peuvent se dire, tiens, le prochain week-end, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, allons explorer une mine, allons découvrir une grotte ici ou là, ou un lac souterrain. Et vous verrez que, effectivement, le choix ne manque pas.
Est-ce qu'on peut aussi séparer ces lieux en deux catégories, ceux qui sont entièrement naturels et ceux que l'on doit à la main de l'homme ?
Oui, effectivement, c'est une bonne suggestion. Ceux qu'on doit à la main de l'homme, parfois, sont partis de cavités qui existaient ou qui préexistaient, et on les a utilisés, on les a transformés, on en a tiré profit, mais effectivement, il y a aussi tous des souterrains d'institutions comme des hôpitaux. À Genève, il y a un véritable labyrinthe souterrain que le public ignore sous l'hôpital, sans parler du CERN, évidemment, et de son fameux accélérateur de particules.
Et puis, Bernard Pichon, certains de ces lieux ont parfois été transformés, étaient déviés, on va dire, de leur but originel, notamment, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, il y a les bunkers de l'armée, dont certains sont devenus des hôtels.
Voilà. Alors, il y en a un en particulier dont je parle beaucoup dans le guide qui s'appelle la Klaustra, qui est dans le Gothard. Et c'est incroyable parce que c'est un hôtel design tout à fait moderne, high-tech, on pourrait dire, au cœur de la montagne. Alors là, quand même, je dirais que pour les claustrophobes, vous passez à temps à pouvoir ouvrir la fenêtre sur la paysage. En revanche, les organisateurs de colloques sont ravis d'aller dans cet endroit-là parce qu'ils disent que les participants aux conférences ne sont distraits par rien du tout, vous voyez. Oui, c'est comme vous dites.
C'est facile.
Il y a effectivement, excusez-moi, par association d'idées, il y a effectivement les bunkers de l'armée qui, eux, n'ont pas tous été convertis en hôtels, mais parfois, maintenant, en lieu de stockage pour les données informatiques sensibles. Donc, les conditions étaient réunies, tant pour la protection, si vous voulez, comment est-ce qu'on pourrait dire, militaire qui régit ces endroits-là, que par les conditions d'humidité, de température. Donc, on en fait maintenant des réduits pour du matériel informatique.
Cette Romandie souterraine, souvent, c'est une découverte pour certains. Il y a une fascination, il y a quelque chose de fascinant à se dire, on va aller sous la terre et découvrir ce qui se passe, parce qu'il y a un monde un petit peu qui s'ouvre au public.
Oui, mais complètement. Moi, j'ai eu la chance, il y a un mois, d'aller en Slovénie, et j'ai exploré une grotte qui est alors immense. C'est une on pourrait mettre une cathédrale à l'intérieur de la salle principale. Il y a un torrent qui coule au fond. Il y a une espèce de pont suspendu qui l'enjambe. On a absolument l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones. Et quand j'étais là-dedans, je pensais à la fois à l'écriture de mon guide qui était en voie de finition et surtout à la littérature qui nous a ouvert à ce genre de choses. Ça commence par Jules Verne, hein, Voyage au centre de la Terre. Il y a une fascination absolue pour ce genre d'endroit auquel la mythologie, les croyances et les religions ont apporté aussi leur petit apport de mystère et de magie, ça c'est clair.
Bernard Pichon, pour ce guide, vous avez visité des lieux très différents. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?
C'est difficile de vous dire parce que c'est des domaines tellement différents. J'avoue une petite déception pour le lac souterrain de Saint-Léonard que mon imaginaire voyait plus grand. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais visité ce genre d'endroit, c'est quand même une chose à faire. À l'inverse, j'ai été quand même assez ébloui par Valorbe, avec de très belles concrétions. Et puis évidemment, je reviens toujours à mes ouvrages militaires, de revoir ces fortifications pour lesquelles on nous demandait de signer des papiers sur l'honneur, comme quoi on n'en parlerait jamais à personne, et de voir que maintenant elles sont ouvertes au tourisme, ça c'est quand même impressionnant. Surtout ce fantasme national d'avoir pensé nous mettre à l'abri de tout conflit nucléaire ou autre durant les années de la guerre froide, paraît aujourd'hui totalement extravagant quand on pense aux sommes qui ont été investies pour creuser de part en part nos montagnes afin d'y loger jusqu'à des aéroports souterrains. C'est extravagant. Et les étrangers qui visitent ce genre d'endroit maintenant, ils en ressortent encore plus éblouis que nous autres qui en connaissons l'existence. Quoi.
Est-ce qu'il y a des lieux, des souterrains ou des galeries justement totalement méconnus que vous ne connaissiez pas du tout et qui ont été vraiment une découverte extraordinaire pour vous, Bernard Pichon ?
J'avais entendu parler des mines d'asphalte, pas très loin de chez vous, et je ne les avais pas visitées, et quand même ça a été une révélation parce que j'ai trouvé que c'était très impressionnant, surtout d'avoir accès aux documents d'époque qui montrent quelles étaient les conditions des ouvriers qui ont creusé tout ça. Le côté anecdotique aussi de pouvoir savourer un jambon qui maintenant est cuit dans l'asphalte. Vous avez goûté vous-même, vous y êtes allé?
Ah bah c'est délicieux.
Oui, c'est délicieux, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une bonne surprise. Mais sinon, j'ai découvert une chose dont j'ignorais totalement l'existence, ce sont les glacières. Je connaissais les glaciers, je parle des grottes dans les glaciers, mais je ne savais pas que si près d'où j'habite, dans la région lémanique, il existe encore des glacières, c'est-à-dire des trous naturels dans la nature qui, jusqu'en été, en plein été, conservent leurs parois de glace. Et donc, autrefois, on s'en servait pour découper la glace qui était transporté par char, tiré par des chevaux, pour aller rafraîchir les débits de boissons et ces choses-là, ou conserver les aliments. Et voilà une chose que j'ignorais et que le guide m'a permis de découvrir.
Et puis, lorsque vous avez pénétré dans ces grottes, quelle était l'ambiance? Quelle était l'atmosphère? Comment est-ce que vous vous sentiez? Vous étiez un explorateur, un aventurier? Vous découvriez la chose?
Je serais un peu Tartarin de Tarascon en vous disant que j'étais un grand aventurier. Je pense que j'étais un touriste comme les autres, juste un tout petit peu plus curieux de pouvoir présenter à mes lecteurs, afin de répondre aux questions que mes lecteurs allaient se poser en lisant le guide, c'est-à-dire quel est l'accès, est-ce qu'il y a des problèmes de température, que sais-je, enfin, des questions un peu banales, mais qui méritaient d'être évoquées. Ce qui était agréable surtout, c'est que, donc, comme il vient de sortir le livre est tout récent, je l'ai terminé à l'époque où il faisait très chaud cet été, et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un intérêt particulier à trouver des endroits intéressants à parcourir et à se mettre un peu à l'abri de la canicule.
Et puis, vous le disiez, de Jules Verne à tant d'autres, dès qu'on pénètre sous terre, il y a une atmosphère particulière, il y a quelque chose d'un peu mystique parfois.
Oui, c'est ce que je disais par rapport d'ailleurs à toute la mythologie qui s'est forgée autour des cavernes, même la description des enfers et de tout ce que vous voulez, tout cet univers souterrain, hein, ça ramène quand même à beaucoup de choses. Et puis, il y a encore un élément qui est important, c'est qu'on est en plein maintenant dans des réflexions sur la protection de l'environnement, et c'est quand même très émouvant de voir qu'on a des stalactites qui sont à quelques mètres de vous, et dont il a fallu des centaines de milliers d'années pour qu'elles arrivent à cette grandeur, à cette taille. Et à l'inverse, c'est l'horreur de voir que dans certains endroits où la protection n'a pas été aussi efficace, certains visiteurs en ont retiré des parties ou les ont endommagées. Ça, c'est quelque chose qui fait du mal par rapport, si vous voulez, au respect d'une nature besogneuse qui, pendant tant de siècles, s'est appliquée à créer ces merveilles.
Bernard Pichon, vous en avez fait un guide, précisément. Ce guide, qu'est-ce qu'il dévoile ? Alors, évidemment, comment on s'y rend, un prix d'entrée et tout. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu une histoire ? Qu'est-ce qu'abrite ces grottes ? Comment est-ce que vous avez... parce que finalement, il y a chez vous aussi cette volonté de raconter, pas seulement le guide en vous disant, l'entrée c'est 12 francs, les enfants c'est 6 francs et c'est tout. Le but c'est de raconter cette histoire et de vous suivre dans ce livre.
Oui, mais c'est peut-être le point qui m'a un tout petit peu déçu. Je m'attendais à trouver plus de légendes attachées aux grottes. Il y en a quand même une bonne demi-douzaine qui font référence à une statue mystérieuse ou des choses comme ça. C'est probablement ce qui m'a un tout petit peu manqué, c'est d'avoir justement des témoignages de personnes ou d'annales de communes qui auraient pu répertorier ce genre d'anecdotes. J'en ai quand même quelques-unes, mais je pensais qu'il y aurait plus d'endroits. Il y a des références à des faits, bien entendu, des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment le domaine qui a été le plus étonnant pour moi.
Les vacances scolaires ont débuté dans la plupart des régions. Une idée pour découvrir la Romandie souterraine, ce guide qui est publié donc aux éditions Favre. On vous remercie beaucoup, Bernard Pichon, d'avoir passé quelques instants ce matin à nous emmener dans cette Romandie souterraine. On vous souhaite une belle journée.
Belle exploration à vous. Merci.
Merci.
Merci.